Bonjour. Alors j'aimerais parler de deux collines dans la Bible qui s'appellent Ébal et Garizim. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors c'est dans le livre, on les trouve à plusieurs endroits, mais notamment dans le livre du Deutéronome, et on trouve les montagnes d'Ébal et de Garizim. Alors, c'est des montagnes qu'on trouve plusieurs fois dans la Bible parce que, entre les deux, elles se trouvent en Samarie, dans le nord d'Israël, entre les deux, Jacob a creusé un puits, le patriarche Jacob avec ses fils, ils ont creusé un puits. Et c'est au même puits que Jésus a rencontré la femme samaritaine. Des siècles plus tard, et aujourd'hui, ce puits existe toujours. Il s'appelle toujours le puits de Jacob, et aujourd'hui, c'est dans le territoire palestinien, ça s'appelle Naplouse. Donc si vous allez à Naplouse, maintenant c'est plus du tout un village comme c'était, maintenant c'est une ville avec des immeubles et tout ça comme Argenteuil, et puis au milieu, vous avez, maintenant ils ont fait une petite église orthodoxe dessus, et à l'intérieur vous avez le puits de Jacob. Alors si vous donnez une pièce au prêtre, il vous en fera même boire. Je ne sais pas si ça vous apportera quelque chose de plus, mais voilà. Et c'est le même qui a été construit par Jacob, qui a été creusé par Jacob et ses fils. Et encore aujourd'hui, ça on va le regarder ensemble, il y a la religion samaritaine. Ça vous dit quelque chose, la religion samaritaine, parce que Jésus, Jésus oui, mais les juifs ne s'entendaient pas avec les samaritains, et c'est une histoire qui remonte en 2 Rois chapitre 17 verset 24. Le roi d'Assyrie avait déporté les enfants d'Israël à 1000 km de là, et il avait mis à leur place des gens de Babylone, Cutha, Ava, Hamat, Sepharvaïm, et les a établis dans les villes de Samarie. Mais 2 Rois 17, 26 nous dit que les animaux sauvages s'attaquaient à eux et leur récolte ne donnait pas, et donc ils ont demandé qu'on leur envoie un prêtre pour qu'ils sachent adorer le Dieu du pays. Et donc le roi a ordonné à un prêtre d'aller s'établir à Bethel et leur enseigner comment ils devaient craindre l'Éternel. Alors qui était ce prêtre? Eh bien c'était un lévite qui a pris les rouleaux de la loi. Vous savez, les juifs ont des grands rouleaux comme ça, il a pris ces rouleaux de la loi et il est allé là-bas en Samarie enseigner à ces gens qui n'avaient rien à voir avec ça comment craindre l'Éternel. Alors il ne s'entendait pas par la suite avec les juifs parce que les samaritains avaient mélangé un peu de leur propre tradition païenne avec le culte de l'Éternel, mais ils avaient les vrais rouleaux de la loi, et figurez-vous qu'ils les ont toujours. Ils ont toujours, ça s'appelle le Pentateuch samaritain. Et si vous savez lire l'hébreu, vous pouvez le lire sur Internet, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Et c'est le même que celui des juifs, c'est ça qui est incroyable. Ils ont comparé les deux Pentateuch en 1947, et les juifs avaient copié intégralement le leur à la main depuis l'Antiquité, et les Samaritains aussi. Et à l'arrivée, c'est le même. Voilà. Vous connaissez un autre livre qu'on peut recopier sans jamais se tromper? Il n'y en a pas. Il n'y a que la Bible. Même moi, je tape toujours au traitement de texte, sinon il y a des fautes à droite et à gauche. Mais là, ce sont des gens qui font ça. Et puis, vous savez que certains juifs voudraient reconstruire le temple, alors c'est pas encore fait, et donc ils se sont mis à chercher qui est le Cohen. Alors qu'est-ce que ça veut dire Cohen? Oui, voilà, le grand prêtre. Qui est le grand prêtre? Alors ils sont allés voir tous les Cohen d'ailleurs, ils s'appellent Cohen, donc c'est pas compliqué. Et ils ont fait une prise de sang, parce que ils veulent faire avec la génétique. Et ils ont trouvé que tous ces descendants de Lévi qui s'appellent Cohen sont pas du tout des purs descendants de Lévi. Il y a beaucoup de mélanges, etc. Hein. Et puis, il y en a un qui a eu l'idée, et si on demandait aux prêtres samaritains, hein, alors ils sont allés voir le Cohen des Samaritains, ils lui ont pris le sang aussi, et ils sont aperçus que c'est lui qui était le plus pur descendant de Lévi. Parce que lui, il est venu directement de la déportation, et c'est toujours lui, son fils, son arrière-petit-fils, etc., qui a été le prêtre des Samaritains, et c'est celui qui a la plus pure descendance depuis Aaron. Hein, voilà. Alors pour les Juifs, c'est des choses importantes, pour nous, c'est pas très important, mais c'est leur actualité, c'est des choses qu'ils sont en train de faire maintenant, et donc il y a un rapprochement entre les Samaritains et les Juifs, puisque les Juifs se disent finalement, à quelques détails près, ils sont aussi bien que nous, hein, voilà. Et tous les jours de Pâques, hein, sur le mont Garizim, alors c'est pas notre Pâques à nous, hein, c'est la Pâques des Juifs qui a quelques jours de différence, sur le mont Garizim, eh bien les Samaritains vont faire le sacrifice de l'agneau, donc ils montent, alors il y a encore les ruines de leur temple, et ils font le sacrifice de l'agneau, comme c'est écrit dans l'Ancien Testament. Hein. Et donc, il y a toujours des chrétiens qui vont les voir pour assister à ça ce jour-là. Mais on ne peut pas participer parce qu'on n'est pas de... Mais on peut voir, on peut assister à leur fête et à leur sacrifice sur le mont Garizim. Hein. Donc, c'est une histoire extraordinaire. Et dans notre dernière expo Bible à Coutances, il y avait... Nous étions sur la droite avec notre exposition. On a beaucoup de Bibles anciennes et tout ça. Au fond, un artiste local avait fait des tableaux de la Bible, et donc il avait mis quelques tableaux des évangiles. Et, enfin je dis un artiste local, c'est un Hongrois qui était bien connu à Paris, qui est venu s'installer là-bas, et qui est un très grand peintre. Et il avait fait Jésus et la femme samaritaine. Et il a fait Jésus et la femme samaritaine à côté d'un petit village provençal, et avec deux montagnes à côté, une qui a des pierres, mais pas de végétation, et l'autre avec de la végétation. Et je lui ai dit, mais comment vous saviez que là où Jésus a rencontré la femme samaritaine, il y avait deux montagnes? Ben, il ne le savait pas. Et donc, quand il a fait son tableau, il a demandé au Seigneur de l'inspirer, et il n'arrivait pas à trouver comment faire, et donc... C'est un jour comme ça, il avait pris le train jusqu'à Nice, et en revenant dans le train, il a vu un village provençal avec une montagne, et il a dit, ah, c'est ça mon Garizim, donc il a pris la photo. Et puis, 10 kilomètres plus loin, il a vu une autre montagne, il a dit, clac, je vais prendre cette photo-là aussi, et il a mis les deux ensemble dans son tableau, mais sans le savoir, il a refait là où se trouvait Jésus, avec la femme samaritaine, et les deux montagnes d'Ebal et Garizim. Et en Deutéronome, on va voir que ce sont les montagnes de la bénédiction et de la malédiction. Hein. Et donc, Garizim, c'est la bénédiction. Alors, qui est-ce qui veut être béni ce matin? Ah, pas tout le monde, hein? Hein? J'espère que vous voulez être béni, hein? Voilà, hein? Et donc, le Seigneur nous invite, hein, à monter sur la montagne de Garizim, la montagne de la bénédiction. Et donc, Moïse, chapitre 11 et 12, a donné des instructions au peuple d'Israël. Prenez votre Bible, parce que vous allez en avoir besoin. Deutéronome 11 et 12. Et verset 29 du chapitre 11. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ebal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident au pays des Cananéens, hein? Et donc, ce n'est pas Moïse qui a fait ça, puisqu'il est mort dans le désert, c'est Josué, hein, qui a fait que les enfants d'Israël se placent là et disent les bénédictions et les malédictions sur la montagne de Garizim. Hein. Alors, on va lire ensemble, il faut que je retrouve les bons versets, hein, Deutéronome 27, donc après, hein, 27. Voilà, c'est là, hein. Deutéronome 27, hein, verset... Alors, la malédiction, ça commence au verset 15. Voilà, 15 et 16. Et les bénédictions, c'est au chapitre 18, verset 2 à 8. Hein. Alors, je vais vous faire travailler ce matin, hein, parce que j'ai longtemps voyagé, donc... hein, voilà. Alors, imaginez que vous êtes un peuple des centaines de milliers de personnes sur ces deux montagnes, et il y en a un d'un côté qui doit dire la malédiction, et de l'autre côté la bénédiction. Alors, ceux qui sont ici à gauche, hein, et ceux qui sont à droite, hein, vous allez nous lire les deux versets de la malédiction, versets 15 et 16, on ne va pas les lire tous parce que c'est assez triste. Hein. Alors, allez-y. Maudit soit l'homme fait une image, plus fort, hein, c'était à voix haute, hein, qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Voilà. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'après, ça se gâte, hein, les malédictions. Hein, voilà. Mais après, il y a les bénédictions. Alors, c'est ceux du milieu, là, hein, qui vont nous lire les bénédictions. Alors, à partir du chapitre 28, verset 2, hein, voici les bénédictions, ben c'est verset 3. Hein. Alors on va lire 3 à 8. Hein. Donc ceux du milieu, hein, la droite et gauche, vous n'avez pas le droit. Hein. Ceux du milieu, hein, 3 à 8. Voilà. Hein. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonna à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Alors, c'est lequel que vous préférez? Hein, la bénédiction, hein, je pense. Hein. Voilà. Hein. Alors, je vous rassure, pour nous chrétiens, nous ne sommes plus exactement, hein, sous le même régime de malédiction et de bénédiction parce que nous ne sommes pas Israël, nous sommes passés dans la Nouvelle Alliance, mais c'était pour vous donner un peu l'idée de ce qu'ils ont fait, de comment le Seigneur leur a parlé, et pour eux c'était valable, hein, jusqu'à la mort du Seigneur sur la croix. Hein. Et d'ailleurs, c'est un mot que vous connaissez, parce que le mot qui est en Deutéronome 28, c'est le mot Beraka, hein, Beraka qui veut dire bénédiction, hein. Et c'est l'origine du mot qu'on le disait autrefois en région parisienne, je ne sais plus si ça se dit maintenant, la baraka. Hein, vous avez entendu quelqu'un dire qu'il a la baraka, hein, voilà. Alors souvent c'est les juifs ou même les arabes des fois qui disent ça. Hein, et ça veut dire la bénédiction, j'ai la bénédiction. Hein. Et c'est de là que vient l'expression, ne me casse pas la baraque. Hein, c'est de là que ça vient, ça veut dire ne casse pas ma bénédiction. Et donc, parce que les Juifs, quand ils réussissent dans les affaires, ils pensent que Dieu c'est la bénédiction de Dieu, hein, voilà. Et quand ils réussissent pas, ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de travers et qu'il faut, voilà. Hein. Et donc, alors pour nous, la Bible nous dit en Éphésiens que nous avons déjà reçu toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, pour les Juifs, c'est plutôt les bénédictions matérielles. Et pour nous, c'est plutôt les bénédictions spirituelles. Hein, voilà. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a aucune bénédiction matérielle? Et non. Hein. Et donc, le Seigneur peut nous bénir dans notre santé, il peut nous bénir dans les affaires, il peut nous bénir dans le travail, il peut nous bénir dans la vie familiale, avec nos enfants, etc. Et c'est ce que le Seigneur fait. Hein. Est-ce que le Seigneur vous a béni cette semaine? Amen. Hein. Et il continuera... à le faire. Hein. Et donc, le Seigneur veut vraiment nous bénir. Hein. Et j'aimerais vous dire que la bénédiction, c'est un choix. Hein. Parce que dans le psaume 1er, par exemple, il est écrit « Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas avec les moqueurs, qui passe avec les menteurs. Hein. » Eh bien, c'est nous qui choisissons. Hein. Personne ne vous oblige à fréquenter les gens méchants, les gens menteurs et les gens moqueurs. Si vous les fréquentez, c'est que vous, vous l'avez choisi. Ce n'est pas Dieu qui a choisi à votre place. Hein. C'est vous qui choisissez. Et puis, si vous faites ce que Dieu vous demande et que Dieu vous bénit, c'est lui qui vous a béni, mais c'est vous qui avez choisi d'obéir. Hein. Et donc, des fois on pense que la bénédiction nous tombe dessus comme ça et qu'on n'y est pour rien, eh bien on y est pour quelque chose aussi. Hein. Si on obéit à Dieu, on marche dans le chemin de la bénédiction. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des preuves? Malheureusement non. Hein. On peut avoir des épreuves, on peut avoir une maladie ou quelque chose, mais envoyé par Dieu pour nous aider, pour notre bien. Hein. Ce n'est pas un châtiment ou quelque chose, c'est quelque chose pour nous aider dans le droit chemin. Et le Seigneur veut vous bénir. Est-ce que vous croyez que le Seigneur veut vous bénir? Hein? Voilà. Autrefois, hein, mais c'est vrai qu'il y a longtemps, hein, ceux qui ont connu ça dans le catholicisme, hein, ont présenté Dieu comme le Dieu méchant, hein, un peu dans l'islam aussi. Hein. Et donc le Dieu qui va vous punir, hein, Dieu va vous punir. Hein. Alors dans le catholicisme, bah, tout à l'heure on va prendre la Sainte Seine, si quelqu'un faisait tomber l'hostie par terre en prenant la communion, clac, il partait en enfer. Hein. Alors oui, c'est ce qu'on enseignait, bon, il y a longtemps, hein, il y a longtemps, mais on enseignait ça. Hein. Et donc, Dieu n'est pas comme ça. Hein, Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous aime et il n'a pas l'intention de nous punir, de nous taper si on a fait quelque chose de mal. Au contraire, il nous ramène vers lui. Et il cherche à nous ramener dans le droit chemin. Hein. Et donc, c'est quelque chose que le Seigneur veut pour notre vie. Dieu a un plan pour notre vie. Alors, on va regarder ça en Romains 12. Dieu a un plan pour votre vie, et son plan, c'est que vous marchiez dans sa bénédiction. Et il nous explique comment. Romains 12, versets 1 et 2. Hein. Alors, qui peut me dire comment est le mot péché en grec? Voilà. Amartano ou amartiano, ça veut dire quoi? Manquer le but, manquer la cible. Hein. Donc si j'ai une cible au fond de la salle et que je tire, hein, je ne vais pas le faire, hein, rassurez-vous, avec un arc et des flèches, et que je ne tombe pas dans le mille, eh bien, j'ai manqué la cible. Hein. Et Dieu a une cible et un but pour votre vie. Hein. Vous vous dites, mais moi qui je suis rien du tout, je suis personne, personne ne me voit, personne ne m'entend, personne ne me parle. Eh bien, Dieu n'a pas cette opinion. Il a un plan et un but pour votre vie, et il aimerait que vous atteigniez la cible et le but de votre vie. Est-ce qu'on l'atteint parfaitement? Ben, pas toujours, hein. Mais en tout cas d'aller dans le chemin que le Seigneur nous a guidé, que le Seigneur a mis en place pour notre vie. Et voilà comment il le fait. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hein. Alors, quel est le problème avec un sacrifice vivant? Hein? Et voilà, il y a un problème avec le sacrifice vivant. Hein? Vous mettez un agneau sur un autel pour le sacrifier, il est encore vivant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en aller, hein? Voilà. Et là, c'est cette image-là, c'est nous-mêmes qui nous offrons un sacrifice à Dieu. Hein? Mais si on part tout de suite après, voilà, hein, et il faut rester dans le chemin du Seigneur et marcher avec lui. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, hein, ça veut dire ne ressemblez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, ce texte nous dit qu'on ne doit pas ressembler au monde qui nous entoure, hein, ne pas réfléchir comme lui, ne pas penser comme lui, hein, mais au contraire, avoir notre intelligence renouvelée, transformée. Hein. Les gens dans ce monde, quand il y a une décision à prendre, on sait tout de suite laquelle ils vont prendre. Hein. Eh bien, le Seigneur veut que nous, nous voyions les choses autrement. Hein. Et que, au lieu de courir à notre perte, comme font les gens de ce monde, qu'on ait l'intelligence renouvelée et qu'on discerne. Qu'est-ce que ça veut dire, discerner ? Hein, ça veut dire voir là où il y a peu de lumière, hein, discerner, hein, c'est comme quand le soleil vient de se lever ou qu'il vient de se coucher, on ne voit pas grand-chose, mais on discerne. Hein. Et bien dans ce monde de ténèbres, le Seigneur nous donne assez de lumière pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et quand on voit le chemin, quand on reçoit le plan du Seigneur, et bien on marche dans le chemin du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Hein. Mais les enfants d'Israël ont souvent pas bien écouté le Seigneur. Alors c'est le thème, on retourne dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 30. Hein. Vous avez tout un chapitre là qui parle de ceux qui entendent la voix de Dieu mais qui ne veulent pas écouter. Hein. Voilà, verset 1, Ésaïe 30. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. » Hein, voilà, on peut faire des accords avec ce monde, des alliances, hein, mais si c'est sans la volonté de Dieu, eh bien, on pêche, c'est-à-dire qu'on s'éloigne du but que Dieu nous a fixé. Au contraire, hein, le Seigneur nous dit au verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y, car sinon vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Voilà. Et donc le Seigneur nous parle, comment est-ce qu'on l'entend ? Par la parole, mais comment est-ce qu'on l'entend ? Hein ? Il faut écouter. Hein? Souvent le Seigneur parle, mais on n'écoute pas. Hein? Parle. Qu'est-ce que Samuel a dit ? Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et le Seigneur veut nous conduire dans son chemin, dans son droit chemin, mais il faut écouter, il faut être à l'écoute. Verset 15, Ésaïe 30, 15 et 16, « Car ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. » C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval, c'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Hein. Est-ce que vous, aujourd'hui, au XXIe siècle, hein, vous vivez dans la tranquillité, le repos, le calme et la confiance. Hein, le monde n'est pas comme ça. Hein. Hein, le monde, c'est dans la précipitation, dans la réaction. Hein, quand quelque chose se passe, hein, quand ça s'inonde à Argenteuil, les journalistes sont là, ils demandent aux gens « Quelle est votre réaction ?» Hein, ben, j'ai les pieds dans l'eau, voilà. Eh bien, le Seigneur ne nous demande pas de réagir. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande ? D'agir, c'est pas la même chose. Hein. La réaction, c'est souvent une mauvaise chose. L'action, hein, c'est une bonne chose. Et souvent, pour bien agir, eh bien, on ne doit pas prendre la décision tout de suite. Hein. Quand Moïse était dans le désert et que les enfants d'Israël venaient lui poser une question difficile, il leur disait pas, ben, faites ceci, faites cela. Non, hein. Il leur disait, je vais consulter l'Éternel. Et vous aussi, aux gens qui vous demandent, mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, mais vous leur dites, excusez-moi, je ne vais pas dire oui tout de suite, je ne dis pas oui tout de suite, mais oui, mais tu... Non, je veux marcher sagement hein, dans la vie, je ne veux pas agir avec impulsion et précipitation. Et c'est comme ça que notre Josué, hein, vous savez, Josué est le successeur de Moïse, les Gabaonites sont venus le voir, hein, ils avaient les vêtements tout vieux, Ils avaient du pain tout sec et ils ont dit, on vient d'un très lointain pays, fais alliance avec nous. Et Josué a dit, d'accord, voilà. Mais c'était un piège, hein, et il a décidé trop vite. Hein, voilà. Et donc le Seigneur veut que nous soyons, nous aussi, dans la tranquillité, la confiance, le calme, le repos. Hein. On n'a pas besoin de faire du yoga ou je ne sais quoi encore. Hein. C'est dans la parole de Dieu, c'est dans la prière, c'est dans la méditation, d'être présent devant Dieu, que le Seigneur nous instruit et nous conduit. Voilà les principes qui sont enseignés aussi par Salomon à son fils David dans Proverbes chapitre 3, verset 15. Hein, c'est les mêmes principes. Il faudrait lire tout le livre, mais on n'en a pas le temps. Hein. Mon fils, verset 5, pardon, Proverbes 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de nous. C'est Salomon qui a dit ça à... C'est David qui a dit ça à Salomon et Salomon qui l'a répété. Hein. Et donc, le Seigneur nous appelle à le mettre en premier dans notre vie. Hein. Et même dans les offrandes, hein, quand on fait les offrandes au Seigneur, eh bien ce sont les prémices, c'est-à-dire la première partie. Hein. On ne donne pas au Seigneur ce qui reste le 31. Hein. Parce que le 31, qu'est-ce qui reste? Beaucoup de poussière. Hein. Voilà. C'est le premier jour du mois qu'on donne au Seigneur. Enfin, pas exactement le premier, mais enfin au début du mois, où on met de côté pour le Seigneur, et lui va s'occuper de nous bénir. Hein. Tout à l'heure, Aldo a parlé de la promesse de la foi. Hein. C'est ça, promesse de la foi. Et là aussi, ce sont des décisions que l'on prend devant le Seigneur. On dit, Seigneur, avec quelle somme tu vas me bénir cette année? Pas pour moi, pour donner aux autres. Hein. Et le Seigneur vous dit, voilà, tu écris ou tu décides telle ou telle somme. Et après, est-ce qu'il va vous la donner? Et oui, hein, après il va vous le donner. Hein. Et donc, parce que c'est lui qui décide. Hein. Si vous allez dire ça à votre banquier, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas possible. Hein, voilà. Mais pour Dieu, c'est possible. Hein. Pour Dieu, toutes choses sont possibles. Hein. Et il veut que nous vivions de cette manière. Alors, voilà. Nous lisons en Jérémie 29, verset 11. Hein, je vous fais chercher partout dans votre Bible. Hein. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. J'ai fait des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Voilà, le Seigneur a décidé de nous bénir. Il a des projets de paix, hein, et non de malheur. Voilà. Alors, pour conclure, nous allons parler de la postérité des justes. Hein, parce que quand vous marchez avec le Seigneur et que vous vivez dans ses voies, est-ce que vous êtes béni? Eh oui, hein? Mais la Bible dit qu'il y a une bénédiction sur vous et sur vos enfants. Hein? Jusque combien? 1000 générations. La bénédiction, c'est 1000. Eh oui, hein? Et donc, certains d'entre vous êtes chrétiens aujourd'hui parce que votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père a connu le Seigneur et servi le Seigneur. Hein? Il y a une bénédiction sur vous, et si ce n'est pas le cas, parce qu'on n'est pas tous issus de familles chrétiennes, eh bien c'est vous, si vous voulez marcher dans les voies du Seigneur, qui allez commencer un nouveau cycle et une nouvelle famille de bénédictions. Hein. Et c'est ce que le Seigneur va faire pour vous. Alors, il y a plein d'exemples dans la Bible, on ne peut pas les prendre tous, mais On va prendre Noé, par exemple, Genèse 6, 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marcha avec Dieu. Alors, nous descendons tous d'Adam, Adam et Ève. Mais est-ce qu'on descend tous de Noé? Eh bien oui, on descend tous aussi de Noé, souvent on l'oublie, parce que tous les autres habitants de la terre ont été détruits par le déluge. Il ne restait que Noé, ses trois fils et leurs femmes. Et donc on est non seulement tous descendants d'Adam, mais tous descendants de Noé. Et en Noé, il y a eu la bénédiction sur l'humanité, et donc il avait trois fils. Qui étaient ses trois fils? Sem, Cham et Japhet. Voilà. Et de Sem, par exemple, les Sémites sont sortis, tous les Juifs et aussi tous les Arabes, les vrais, parce qu'il y a beaucoup qui s'appellent Arabes qui ne sont pas, mais les vrais descendent de Sem. Voilà. Et donc, c'est un homme qui a apporté la bénédiction à de très nombreuses personnes dans le monde. Abraham, Genèse 18, 23, s'approcha et dit, c'est pas ce verset-là que je veux, mais c'est un autre où Dieu lui dit, je vais te bénir, et je vais te bénir. Oui, là il pose la question, feras-tu périr le juste avec le méchant? Quelle est la réponse de Dieu? Non, non. Et donc, Abraham a commencé une bénédiction qui s'étend jusqu'aujourd'hui. Tous les Juifs sont descendants d'Abraham, mais aussi tous les chrétiens par la foi. Et ça fait combien de personnes, les chrétiens, maintenant, sur la terre? Officiellement, après je ne suis pas allé vérifier chacun, mais officiellement, il y a 2,6 milliards de chrétiens sur la terre. Si vous rajoutez tous les catholiques, tous les protestants, tous les évangéliques, etc., 2,6 milliards. Ça fait autant que la Chine et l'Inde ensemble. Et sans compter les Juifs et les autres. Donc la bénédiction d'Abraham s'est étendue à vraiment de très nombreuses personnes. Et puis, j'aimerais vous arrêter sur Romains 1, 17. Là, on revient dans le Nouveau Testament. Voilà. On va lire 16 et 17. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra. Par la foi. Alors, toute l'année 2017, on a parlé de ce verset-là et du verset de Galates 3:11. Nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alors, c'est à cause de quoi qu'on a parlé de ces versets toute l'année 2017? Oui? J'ai entendu là. Luther, C'est à cause de ces versets-là, Luther était un prêtre catholique. Et avant d'être prêtre, il était un docteur en droit, et ensuite il est devenu moine, ensuite il est devenu docteur en théologie, et puis prêtre, mais avec tout ça, il ne connaissait pas la paix de son cœur. Il avait de l'angoisse, et tous les jours il allait confesser ses péchés pendant des heures, des fois 2-3 heures il passait à confesser ses péchés, parce qu'avec, étant docteur en droit, il voyait, il comprenait toute la gravité du péché. Et voilà que son confesseur un jour lui a dit, mais ces péchés que tu me confesses, tu les avais déjà confessés il y a plusieurs jours. Si tu reviens les confesser, c'est que tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Alors là, Luther ne savait pas quoi répondre. Et le confesseur, c'est lui qui lui a dit, mais la Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que si tu demandes pardon de tes péchés à Dieu, eh bien tu dois croire qu'il t'a pardonné. Sinon, ce n'est pas la peine de demander pardon. Et donc Luther a eu, ça a été pour lui sa révélation ce jour-là, il y a combien d'années? 500 ans, hein. Voilà, hein, la révélation. Et c'est là où il a, tout prêtre qu'il était, il n'était pas né nouveau. Hein. Et c'est là qu'il est devenu un véritable chrétien. Il a reçu par la foi l'assurance du pardon de ses péchés. Et ensuite, quelques temps plus tard, il était devant l'empereur Charles Quint, hein, du Saint-Empire romain germanique, devant le représentant du pape, devant des prêtres, des moines, et qui lui disait tous, tu dois renier tous les livres que tu as écrits. Hein. Et Luther a répondu, ma conscience est prisonnière de la parole de Dieu, je ne peux ni ne veux me rétracter. Hein. Et il avait reçu le courage par la foi, hein, de croire la parole de Dieu et de dire, je ne renierai aucun de mes écrits tant que vous ne me prouverez pas par la parole de Dieu que je suis dans l'erreur. Hein. Or, eux, ils ne lisaient pas la Bible, ils ne pouvaient rien lui dire. Hein. Ils ne la connaissaient pas. Hein. Donc, voilà. Et donc, ça a été le début de la réforme et qui a concerné depuis ce temps-là. Le monde entier a été touché par ce mouvement. Hein. Et donc, ça a été le début d'une bénédiction, là aussi, pour le monde entier. Hein, voilà. Alors, j'aimerais finir en vous racontant une histoire. Là, retourne, hein, je m'arrête après. Hein. Alors, j'aimerais vous parler d'un certain Nicolas Louis von Zinzendorf. Hein, vous le connaissez ? Voilà, Zinzendorf, hein, oui. Et donc, des fois, quand je raconte cette histoire, on me dit, c'est trop beau pour être vrai. Hein. Alors, j'ai photocopié les pages. Hein, voilà, hein, donc... C'est dans le livre imprimé par l'Institut de Nogent, de l'évangélisation jusqu'aux extrémités du monde. Hein, donc, c'est une histoire vraie. Hein, c'est l'histoire de. Alors, ça commence par une jeune bohémienne. Hein, alors, on ne sait pas comment elle s'appelait, mais imaginons qu'elle s'appelait Pépita. Pourquoi hein, hein, voilà. Et. Une jeune bohémienne qui se promenait dans la rue et un peintre l'a vue et lui a dit « Je veux que tu viennes dans mon atelier pour te peindre. » Alors cette jeune fille, elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle savait que le peintre allait lui donner des sous. Hein, donc elle est allée dans l'atelier et le peintre l'a peint parce qu'il voulait faire le tableau d'une bohémienne. Et dans l'atelier... Il y avait un tableau de la crucifixion, il y avait Jésus sur la croix. Et elle ne connaissait pas du tout cette histoire. Hein. Et alors elle a dit au peintre, mais qui c'est cet homme? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça sur la croix? Mais le peintre lui a dit, mais c'est Jésus, tout le monde le sait. Ah bon, mais moi je ne savais pas. Hein. Et pourquoi il est en train de mourir sur la croix? Eh bien, il a dit, mais c'est pour nos péchés qu'il est mort. Ah bon, c'est pour... Et si cet homme est mort pour vous, il doit beaucoup vous aimer. Le peintre faisait des tableaux comme ça pour des églises, il en a fait toute sa vie, mais il n'avait jamais réfléchi au sens de la mort de Jésus sur la croix. Et donc, il, sur ce tableau qu'il faisait, il a eu l'idée de rajouter une phrase en latin, mais je vous la dis en français, « Voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Il a écrit ça en bas du tableau. Et c'est C'est un disciple de Corrège vers 1600, hein, voilà. Domenico Fetti s'appelait le peintre. Voilà. Mais le tableau n'existe plus. Et donc, un jeune noble qui s'appelait Nicolas Louis von Zinzendorf, qui venait de la région de Prague, hein, en Bohême-Moravie, là-bas, et qui était propriétaire de nombreux biens, faisait le tour d'Europe. Il visitait un petit peu partout l'Europe. Et. Mais il s'ennuyait, il ne savait pas quoi faire de sa vie, il faisait partie des gens riches et importants qui pas besoin de travailler, pas besoin d'étudier, voilà, hein, tellement d'argent que voilà. Et donc, il s'intéressait aux choses spirituelles, mais il ne savait pas comment choisir sa voie. Et un jour, avec des amis, ils ont dit, tiens, on va visiter cette exposition. Ils ont visité l'exposition et il est tombé en arrêt devant ce tableau. Hein. Et il est resté là devant ce tableau toute l'après-midi. Et le soir, le guide est venu lui dire, écoutez, monsieur, il faut rentrer chez vous, là, on va fermer. Hein, donc, ils l'ont mis dehors. Mais depuis ce jour-là, il a décidé de vivre sa vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Hein. Alors, comment faire, lui qui était riche et tout ça? Eh bien, il a eu l'idée Il s'est marié avec une jeune femme noble aussi, mais qui avait les mêmes pensées que lui au sujet du Seigneur. Et dans sa propriété, il est retourné chez lui dans sa propriété à Ehrenruth, mais c'est un petit village. Hein. Et il a dit, eh bien, ce village sera un centre d'accueil pour tous les chrétiens persécutés d'Europe. Et donc, que ce soit d'Angleterre, de Hollande, de France, d'Allemagne, tous ceux qui étaient persécutés par les catholiques, et même certains étaient par certains protestants, eh bien, ils allaient se réfugier dans son village. Et donc, ça a été un lieu d'accueil pour tous ces chrétiens. Mais, comme ils venaient de tous les pays et qu'ils avaient des opinions différentes, ils ne s'entendaient pas toujours entre eux, alors ils ont eu l'idée, dans la petite église du village, de commencer une réunion de prière. Hein, vous faites des réunions de prière ici, à Argenteuil, hein. Alors, ils ont eu l'idée de commencer une réunion de prière, mais de combien de temps ils allaient prier, à votre avis? Je vous écoute. Hein, une demi-heure. Je vous écoute. Qui dit mieux? Toute la nuit. Qui dit mieux? Hein? Trois, hein? Ah oui, sans cesse, mais pendant combien de temps? Hein? Pendant 100 ans. Ils ont décidé de faire une prière, réunion de prière de 100 ans. Hein? Puisque dans le village, il n'y avait que des chrétiens vraiment ardents et bouillants, hommes et femmes, eh bien, qu'est-ce qui les empêchait de prier pendant 100 ans? Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, hein, dans ce petit village. Et donc, à l'époque, les hommes étaient à droite et les femmes à gauche, hein, mais jour et nuit, dans cette église, il y avait des gens qui priaient pendant 100 ans. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Le réveil a éclaté dans ce village. Hein. Et l'Esprit est descendu sur eux. Et qu'est-ce que le Seigneur les a conduits à faire une fois qu'ils ont été vraiment remplis du Saint-Esprit et poussés à agir pour le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur leur a inspiré? Oui, partir en mission dans le monde. Hein. Et donc on les appelle les frères moraves. Hein. Eh bien, ce sont les premières missions, hein, nous baptistes, on parle de William Carey, qui est le premier missionnaire des temps modernes. Mais avant lui, hein, il y avait déjà des frères moraves, et ils utilisaient les mêmes méthodes que nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils prenaient leur clic et leur claque, et ils partaient dans un autre pays où l'évangile n'avait pas été annoncé. Et ils allaient dans ce pays. Ils écoutaient, il fallait apprendre la langue des gens, il fallait traduire la Bible dans leur langue, il fallait faire des cantiques dans leur langue, et leur annoncer l'évangile. Et bien c'est comme ça qu'ils ont commencé, par la grâce de Dieu, dans tous les coins du monde. Alors, ils sont allés en Laponie, à Ceylan, qui est, ça s'appelle différemment maintenant, j'ai oublié. Hein? Sri Lanka maintenant, merci. À Alger, en Guinée, en Afrique, en Perse, en Égypte, en Indonésie, en Mongolie et au Labrador, hein, voilà, et aux États-Unis aussi, ils sont allés évangéliser des Indiens. Et sur le bateau, en allant aux États-Unis, ils ont rencontré deux frères anglais qui allaient aussi évangéliser les Indiens. Alors, c'est formidable. Mais ces deux frères anglais, ils avaient un seul défaut, ils n'étaient pas convertis. Hein? Alors, il leur a annoncé l'évangile, et ils se sont convertis sur le bateau, et ils sont revenus en Angleterre pour annoncer l'évangile. Et ils s'appelaient comment, ces deux frères? John et Charles Wesley. Hein? Et voilà. Et ces deux hommes-là ont annoncé l'évangile dans toute l'Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et ailleurs. Et il en est sorti un mouvement de réveil où 1 million de personnes s'est converti. Hein. Et en même temps qu'en France, on faisait la Révolution française. Hein. Et qu'est-ce qu'on a fait en France avec notre belle Révolution? Hein, on a massacré 1 million de gens. Hein. Et eux, ils ont sauvé 1 million de gens en même temps. Hein. Alors c'est pas la même chose. Hein. Et tout ça, suite à ce noble Nicolas-Louis von Zinzendorf, qui a décidé dans son cœur de consacrer sa vie au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit, moi aussi, je veux consacrer ma vie au Seigneur, moi aussi je veux répondre à cet appel que le Seigneur me donne, voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi? Le Seigneur a décidé de vous bénir et il vous appelle à marcher dans le chemin de la bénédiction. Alors on va fermer les yeux, incliner la tête et prier. Seigneur éternel, quel privilège nous avons de t'aimer, de te connaître, de te servir et de vivre avec toi et pour ta gloire. Les frères Moraves ont écrit ce chant « T'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain ». Combien, Seigneur, nous réjouissons de te connaître, de t'aimer et de ce que tu peux faire, cette œuvre miraculeuse dans notre vie, si nous voulons te donner notre vie, si nous voulons être un sacrifice vivant, si nous voulons marcher dans le chemin de la bénédiction, tu veux bien changer notre vie ce matin. Alors si ce matin, pendant que les yeux sont fermés, les têtes inclinées, vous ne connaissez pas encore le Seigneur personnellement, si vous n'avez pas reçu le pardon de vos péchés, et si son sang n'a pas lavé votre cœur, si vous n'êtes pas passé par la repentance, le Seigneur vous appelle à le faire ce matin et à dire « Seigneur, pardonne mes péchés, purifie-moi, donne-moi la vie éternelle, je veux marcher avec toi. » Et puis pour dites-le-lui simplement. Et puis pour ceux qui sont chrétiens, depuis longtemps ou depuis peu, le Seigneur vous pose la question « Est-ce qu'aujourd'hui tu veux te donner ta vie comme un sacrifice vivant et tu veux me servir et entrer dans le chemin de la bénédiction que je te donne ?» Dites-le au Seigneur, « Oui Seigneur, je veux te donner mon cœur, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je veux rentrer dans ce chemin de la bénédiction, je veux être un sacrifice vivant à ta gloire. » Dites-le au Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.